suis jamais là lorsque tu te réveilles. Alors je parle seul pour faire un peu de bruit. Mes heures s'éternisent et sont toutes pareilles. Je ne distingue plus ni le jour ni la nuit. Je ne crois pas en Dieu, mais j'aime les églises. Et ce soir, je repense aux gisants vénitiens qui me ressemblaient tant. Mais la place était prise, toi seul, c'est vraiment pourquoi je m'en souviens. J'aimerais tant savoir comment tu te réveilles.
Allez, on rentre à la maison. Allez, viens, quoi. Ce soir, on pleure, personne ne vient ça.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Aujourd'hui, des inédits, grâce à l'aide à l'enregistrement de Marianne Guimot. On va commencer par la rencontre des chorales au Collège Politzer fin mai. On poursuivra par un jeu mathématique avec les CM2 de l'école Joliot-Curibé qui vous propose un second programme de construction. La leçon est à télécharger sur le site de Radio Cartable et un cadeau est à gagner. Enfin, nous écouterons l'interview de Wissem Belgacem sur son livre « Adieu ma honte » paru chez Fayard en 2021 et réalisé par toutes les classes de 4e du collège Politzer. Merci à Sylvain Delbel pour l'enregistrement qui a eu lieu à l'auditorium de la médiathèque d'Ivry-sur-Seine. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour, 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 bon Eh oui, mais qu'est-ce que tu nous proposes comme jeu?
C'est la géométrie youpi de Radio Carta.
Bonjour, je m'appelle Inaya.
Et moi, je m'appelle Réan.
Nous sommes en classe de CM2 à l'école Jalo Curie B.
Nous vous proposons de participer au jeu
la géométrie youpi.
Nous allons vous dicter un programme de construction. Vous devez faire de votre mieux pour reproduire la figure décrite et nous envoyer la production de votre classe qui vous semble le mieux réussie par mail ou dans la boîte aux lettres de l'école Joliot-Curie B avant le 17 juin.
Nous recevrons vos productions et choisirons avec notre classe la plus proche de notre figure de départ, mais aussi la plus précise. La classe tirée au sort parmi les bonnes réponses recevra un cadeau. Maintenant, c'est à vous de jouer.
Nous vous laissons un peu de temps pour préparer un cahier de brouillon, un crayon de papier, ce qu'il faut pour dessiner une première fois la figure à main levée. Vous pourrez refaire ensuite votre figure au propre sur une feuille blanche avec une règle, un coupa et une équerre. Alors, vous êtes prêts?
C'est parti!
Tracez le carré A, B, C, D de 8 cm de côté. Je répète, tracez le carré A, B, C, D de 8 cm de côté.
Tracez la diagonale A, C, puis la diagonale B, D. Je recommence. Tracez la diagonale A, C, puis la diagonale B, D.
Placez le point
M,
point d'intersection des diagonales du carré. Je répète, placez le point
M,
point d'intersection des diagonales du carré.
Placez le point E, milieu de AB. Je répète. Placez le point E, milieu du segment AB.
Puis, placez le point F, milieu du segment BC. Je répète. Placez le point F, milieu du segment BC.
Placez le point G, milieu du segment DC. Je répète. Placez le point G, milieu du segment DC.
Et après, placez H milieu du segment AD. Placez le point H milieu de AD. Tracez un cercle de centre
M
et du rayon
M
E. Je répète. Tracez un cercle de centre
M
et de rayon
M
E.
Tracez les segments EG et HF. Je répète, tracez les segments EG et HF.
Placez le point I milieu du segment H
M
et J le milieu du segment
M
F. Je répète. Placez le point I milieu du segment H
M
et J le milieu du segment
M
F.
Tracez le losange EJGI. Je répète. Tracez le losange EJGI.
À partir du segment AB, tracez le triangle équilatéral A, B, K. Je répète. À partir du segment AB, tracez le triangle équilatéral A, B, K. Attention, il ne faut pas tracer le triangle à l'intérieur du carré A, B, C, D.
Tracez le demi-cercle de centre H et de rayon HA à l'extérieur du carré ABCD. Je répète, tracez le demi-cercle de centre H et de rayon HA à l'extérieur du carré ABCD. Tracez aussi le demi-cercle de centre F et de rayon FB également à l'extérieur du carré ABCD. Je répète, tracez aussi le demi-cercle de centre F et de rayon FB également à l'extérieur du carré A, B, C, D.
Cette figure vous fait-elle penser à quelque chose? Si oui, vous pouvez nous l'écrire sur votre fiche réponse.
Nous espérons que cette rubrique vous a plu.
Et nous avons très hâte de voir vos productions, les amis.
Nous les examinerons avec la plus grande attention, soyez-en sûrs.
À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.
Petit souci s'en va porter, tendre le berger dans la galette, son petit panier dans la forêt, pour sa mamie dans sa maisonnette.
Petit souci s'en va porter, tendre le berger dans la galette, son petit panier dans la forêt, pour sa mamie dans sa maisonnette.
Petit, petit chaton rouge, fais attention à tout ce qui bouge. Petite fille, regarde partout, fais attention, attention aux loups.
Petit, petit chaperon rouge, fais attention à tout ce qui bouge. Petite fille, regarde partout, fais attention, attention aux loups. Attention aux loups, attention, attention, attention aux loups.
Il a dit Angela la
petite. Petit, petit chaton rouge, fais attention à tout ce qui bouge. Petite fille, regarde partout, fais attention, attention au loup.
Petit, petit chaton rouge, fais attention à tout ce qui bouge. Petite fille, regarde partout, fais attention, attention au loup. Attention au loup, attention, attention, attention au loup.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Nous allons écouter l'interview de l'écrivain Wissem Belgacem à propos de son livre « Adieu ma honte » paru en 2021 chez Fayard. Cette interview a été préparée par toutes les classes de 4e du Collège Politzer. Merci à Marianne Guillemot, Sylvain Debeil et la médiathèque d'Ivry pour l'accueil et l'enregistrement de cette rencontre.
École Ivry. École Ivry.
Les livres
qu'il faut
lire,
lire,
lire.
Bonjour à tous et à toutes, je vous présente Wissem Belgacem, il est d'origine tunisienne et française, à 8 ans il a perdu son père et sa mère a dû nourrir sa famille de 5 enfants. À 8 ans il ne se sentait pas comme les autres.
Élevé par la cité, il a grandi dans un environnement où l'homosexualité est visiblement interdite pour un jeune du quartier. Il intègre le centre des formations de Toulouse, mais son homosexualité devient de plus en plus dure à cacher. Après un voyage en Thaïlande, il annonce à sa mère qu'il n'est pas parti avec une femme, mais un homme. La réaction de sa mère a été dure pour lui.
Bonjour à tous, je suis très content d'être là ce matin.
Je vois beaucoup de jeunes comme vous à travers toute la France, donc ça me fait très plaisir d'être dans votre ville ce matin.
Comment as-tu intégré le centre de formation ?
Quand il y a des joueurs de foot ici ?
Ouais, je pense que...
Mais il y a des joueurs de foot talentueux ou... En fait, il y a ce qu'on appelle des recruteurs qui viennent observer les matchs, beaucoup en Ile-de-France et beaucoup dans la région de Marseille. Parce que c'est là où il y a les meilleurs joueurs, parce que c'est là-bas où il y a l'Olympique de Marseille, forcément. Les recruteurs, ils viennent observer les joueurs à des matchs. Et moi, donc, j'avais 13 ans et il y a plusieurs recruteurs qui sont venus et on m'a fait différentes offres. À l'époque, il y avait Montpellier, il y avait l'OGC Nice et il y avait Toulouse. Et en fait, avec ma mère, on a visité les trois centres de formation. Et ma mère, c'était très, très important pour elle, les études. Donc, elle a vu qu'en fait, à Toulouse, c'est là où il y avait le meilleur suivi pour les élèves, parce qu'en fait, tu as plein de clubs de foot. L'âge légal en France pour arrêter l'école, c'est 16 ans. Donc, il y en a plein de clubs qui, dès 16 ans, si tu veux plus aller à l'école, tant que tu es bon en foot, il n'y a que ça qui compte. Sauf qu'en fait, le jeune, peut-être qu'il va jouer un an, deux ans, et il va se blesser gravement, ou alors il ne va pas être aussi bon que ce qu'on pensait, et le club va le lâcher. Alors que c'est vrai qu'à Toulouse, il y avait un vrai suivi. Moi, je ne connaissais pas du tout la ville, hein, je ne connaissais pas la région. C'est à 4 heures de voiture de chez moi, donc ce n'était pas la porte à côté. Mais j'ai senti qu'il y avait un projet très solide, autant sportivement que scolairement. Et en fait, les trois quarts des joueurs de centre de formation, les trois quarts ne signeront pas pro. Le football, c'est très, très dur. Par génération, il y en a entre peut-être un ou deux joueurs qui signent pro. C'est bien de croire en soi, mais c'est bien aussi d'avoir un petit plan B sur le côté au cas où. Mais ensuite, moi, je vous recommanderais toujours de ne pas arrêter l'école. Quoi que vous ayez envie de faire dans la vie, apprendre, aller à l'école. Parce que l'école, c'est pas que les matières, ça t'aide aussi à structurer ta façon de penser, ça t'aide à réfléchir devant un problème, ça t'aide à raisonner. Parfois, vous avez des devoirs en équipe, c'est du travail de groupe. C'est beaucoup plus que Pythagore et Thalès.
Quand et pourquoi as-tu décidé de devenir homosexuel ?
Alors ça, c'est une question intéressante. Donc toi, par exemple, à quel âge est-ce que tu t'es dit « Ok, j'ai le choix entre aimer les filles et aimer les garçons » et si tu es hétérosexuel, par exemple, tu t'es dit « Je vais choisir d'aimer les filles ». Eh ben écoute, non mais c'est intéressant ce qu'il dit, écoutez s'il vous plaît, il dit qu'il a toujours aimé les filles. Ben sache que pour une personne homosexuelle, c'est exactement pareil. Et moi j'ai toujours aimé les garçons, tu vois. Alors même si j'ai eu une copine, hein, je suis resté 4 ans avec une fille, etc., en fait, je me mentais un peu à moi-même parce qu'au fond, je savais.
J'ai dit je t'aime, mais j'ai failli quand même. Je vole, tu voles dans le firmament. Brûle une parole, on s'y voit dedans. Puis nous revoilà.
Alors là, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une interruption de Radio Cartable. Je vais essayer de gérer. Je ne comprends pas. Mince. Il va y avoir un petit peu la bande sans fin. Je suis désolée pour Radio Cartable. Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
On y va ou on n'y va pas ? Si on y va, c'est que on n'y va pas. Et si on n'y va pas, on y va ou on n'y va pas ? Eh ben on y va. Si on y va, donc c'est qu'on n'y va pas. Alors on y va. On y va, mais on n'y va pas. Alors on y va. Thank you.
lumière est plutôt jolie, deux gamins tournés vers la vie. Sur le chemin derrière Jojo, c'est Gaston qui a fait la photo, mais rien sur l'image ne dit que c'était le dernier samedi de leur grand-mère à la maison. Entre sagesse et déraison, le maïs n'est pas coupé et les petits sont occupés en descendant sur le chemin à faire des signes avec les mains. Simple de deux enfants, mais rien sur la mort de maman. Et le Jura ne ressort pas dans la brume de ce jour-là. Elle adorait cet enfant blond, ses quelques baisers sur le front. Ils échangeaient comme de l'amour. Elle est...
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire et c'est...
On a fait le tour du village avec deux enfants du même âge. Ils vont vers la vie à grands pas, la mort ne les regarde pas. On voit sur la photographie deux enfants de dos qui sourient. Ils vont vers la vie à grands pas, la mort.
Bonjour.
Maintenant, ce qui va faire qu'un joueur y perce et qu'il devient pro, c'est avant tout un exploit mental que tu réalises. Parce que le football, c'est pas juste faire un bon match.
Avec toutes mes excuses.
Et la semaine d'après, être mauvais, être bon à nouveau, être mauvais. Il faut être consistant, match après match. Que ton coach se dise, lui, je peux compter sur lui toute la saison. Mes anciens coéquipiers, c'est Moussa Sissoko, qui a joué en équipe de France quand même, etc. Etienne Capou. Et en fait, eux, quand c'était l'heure d'aller faire la sieste, ben, eux, ils dormaient, ils se reposaient tranquillement. Moi... Quand c'était l'heure de la sieste, ben, j'étais dans ma chambre à me prendre la tête, à me dire « Putain, mais comment je vais changer? Comment je vais changer ?» Et c'est là où j'étais comme un ouf à regarder les différents psys. Dans tous ces temps où j'étais censé me reposer, avoir l'esprit tranquille et au final, diriger toute mon énergie sur mes entraînements, ben, moi, j'avais le projet d'essayer de devenir hétérosexuel. Et donc, je peux t'assurer que ça, psychologiquement, ben, c'est très difficile pour un jeune de traverser ça.
Est-ce que cela a été compliqué de cacher votre homosexualité?
En fait, ça n'a pas été tant compliqué que ça. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont plein de clichés et de stéréotypes sur les homosexuels. Il y en a plein qui pensent que si tu es homosexuel, forcément, tu es un mec qui met des talons, qui se maquille, qui porte des perruques. Sauf que ben moi, vu que je ne rentre pas dans ça, moi je pense que si j'étais venu aujourd'hui vous parler de foot, personne n'aurait dit « Ah ouais, lui, il est gay ». Parce que les gens ont des idées de l'homosexualité et qui sont complètement fausses. Alors après, attention, bien sûr, il y a des homos qui aiment mettre des talons, des perruques, et ils ont totalement le droit de le faire, et on n'a absolument rien à leur dire. Mais tu as aussi des homos comme moi, qui aiment jouer au foot. Moi, j'ai un pote à moi qui est gay, il est boxeur. Être homo ou être hétéro, c'est pas forcément inscrit sur le front des gens. Et en fait, là, j'ai entendu des gens qui étaient très surpris en disant « Ah ouais, un gay peut faire de la boxe !» Et ça, essayer de prendre conscience que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les médias et les films que vous regardez qui vous font penser qu'un homo, il est forcément comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez une émission qui s'appelle « Plus belle la vie ». Voilà. Mais « Plus belle la vie », pendant très longtemps, il n'y a pas eu un seul personnage qui était arabe. Un jour, ils ont mis un arabe, et qu'est-ce qu'on voit quelques épisodes plus tard? Le mec, il vole. Eh bien ça, tu vois, ça aide à renforcer le fait que dans la tête de beaucoup de gens en France, si t'es un arabe, t'es un voleur.
Êtes-vous déjà tombé amoureux d'un coéquipier? Non.
Ok. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si un homo garçon, il joue avec une équipe de garçons, il va, voilà, se mettre à kiffer ses coéquipiers, tomber amoureux, blablabla et tout. Que ce soit les personnes hétérosexuelles ou les personnes homosexuelles, tout le monde a des goûts. C'est-à-dire que toi, si t'es un mec hétéro, est-ce que quand tu marches dans la rue, t'as envie de sauter sur toutes les filles? En fait, tout le monde a des goûts. Et c'est pareil pour les personnes homosexuelles. Et donc, pour en revenir à mes coéquipiers, non, je suis jamais tombé amoureux d'un coéquipier. Parce que moi, quand je jouais au football, ben moi, en plus, c'était mon métier. Donc, c'est comme ça que j'allais au travail. Moi, quand j'étais dans un vestiaire de foot, parce que dans un vestiaire de foot, on ne parle pas de football, tout le monde parle que de filles. Ben en fait, j'y allais un peu avec la pression, la boule au ventre, parce que je me disais, ah ben faut te rappeler du nom de la fille que t'as sortie le week-end dernier, etc., etc.
Moi, je voulais vous demander comment en fait, parce que normalement par rapport à la religion musulmane, moi je me posais la question comment on peut être homosexuel et en même temps musulman. Parce qu'en fait, en gros, dans l'islam, on nous dit quoi ? On nous dit que les rapports sexuels entre hommes sont harem. Mais comme on ne peut pas choisir d'être gay, d'être attiré par des hommes ou des femmes, moi je voulais vous poser la question.
Alors écoutez, la réponse que je vous fais pour ça, et c'est très important, écoutez-moi bien. Vous savez, sur Terre, il y a trois grandes religions monothéistes. Monothéiste, c'est quand on prie vers un seul Dieu. On a le judaïsme, on a le christianisme et on a l'islam. Et en fait, le passage que beaucoup de gens utilisent pour incriminer les personnes homosexuelles, c'est le même. C'est autour d'un prophète, paix à son âme, qu'on appelle le prophète Lot. Voilà. Et en fait, donc c'est le peuple de Sodome et Gomorre. Et l'histoire, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que quand le prophète est arrivé dans cet endroit où les gens étaient ce qu'on appelle des païens, ça veut dire qu'ils priaient de multiples dieux. Par exemple, quand tu traversais cet endroit de la planète, les gens se faisaient agresser, se faisaient piller. Oui, il y avait des hommes qui avaient des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais on nous rapporte que c'était souvent des mineurs. Mais ces hommes-là violaient aussi des femmes. Et donc tout ça pour te dire que en fait, les livres saints dans les trois grandes religions monothéistes, pour ceux qui ont déjà lu, que ce soit le Coran, la Bible ou la Torah, ce sont pas des manuels où on te dit si tu veux être un bon musulman, il faut se lever à 7h30, manger deux croissants, boire un verre de jus d'orange et blablabla. En fait, dans les livres saints, on te raconte des anecdotes, des histoires, et à partir de ça, tu interprètes ce qui est écrit et tu t'en sers pour mener ta vie à bien. Et donc, en fait, une grande religion comme l'islam, tu vois, ce même passage, il peut être interprété de différentes manières. Il y a un imam en France qui s'appelle Ludovic Mohamed Zahed. Donc, lui, c'est vraiment son métier. Il a étudié ça, etc. Et lui, il propose une grille de lecture qui est différente. Quand tu as foi en Dieu, en fait, on te demande juste d'être avant tout une bonne personne sur Terre et de faire le bien. Et moi, je ne suis pas convaincu qu'aller frapper des gens dans la rue parce qu'ils sont homosexuels, ben c'est ça être musulman, c'est ça être chrétien ou c'est ça être juif. Moi, je ne prétends pas que je détiens la vérité. Moi, je dis juste que j'ai une version, une interprétation de ma religion. Elle n'appartient qu'à moi. Et ce n'est pas parce que quelqu'un en face de moi pense différemment de ce que moi je pense, ben que je vais aller le frapper, le quoi que ce soit, tu vois. Ben tu sais, le mot, on parle beaucoup du mot homosexualité, mais en fait, on parle que d'amour. Et moi, je pense qu'on est sur Terre avant tout pour s'aimer les uns les autres. Et que donc, du coup, ben, deux filles qui s'aiment ou deux garçons qui s'aiment, ça ne fait du mal à absolument personne.
Comment ça s'est passé quand vous l'avez annoncé à vos proches ?
Je refais un petit pont avec l'histoire de la religion. Mes amis, tu vois, par exemple, j'ai un très bon ami à moi, il s'appelle Tala. Il est français, d'origine sénégalaise. Et Tala, c'est la personne la plus pieuse que je connaisse. Il loupe pas une prière. Et Tala, quand je lui ai dit, il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit, moi, Wissem, t'es mon frère, tu restes mon frère. Et seul Allah peut juger. Moi, j'ai rien à te dire. Donc, tu vois, souvent, en fait, les gens qui sont vraiment proches de la religion, pas juste qui entendent à droite, à gauche, ouais, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, mais qui savent même pas le pourquoi du comment. Par contre, avec eux, ça a été plus compliqué, parce que là, il y a du jugement. Mais parfois, certains ont eu besoin d'un peu de temps. Moi, il y a un très, très bon ami à moi, quand je lui ai dit, il s'est mis à pleurer devant moi. Il m'a dit, Wissem, t'es comme mon petit frère, et avec ce que tu m'as dit là, tu vas aller en enfer. Et je lui ai dit, tu sais quoi? C'est gentil ce que tu me dis, on va laisser le bon Dieu décider de qui va où. Moi, je te demande juste, est-ce qu'on peut rester potes? Maintenant, tu le sais, voilà. Et pendant 6 mois, on s'est un peu distancé. Et après, il est revenu vers moi. Et aujourd'hui, on est très, très proches. Et il monte à Paris avec sa femme et ses enfants dans 2 semaines. On va aller dîner ensemble et voilà. Ensuite, il y a eu mes sœurs et ma famille proche. Ma plus jeune sœur, quand je lui ai dit, elle a eu un ouf de soulagement. Parce que je lui ai dit, j'ai un truc à te dire. Et elle m'a dit, j'ai cru que tu allais me dire que tu fumais. parce qu'elle, elle fume et elle voulait pas que je fume comme elle, tu vois. Et après, ben, mes autres sœurs, il n'y a eu aucun problème. Ma mère, quand je lui ai dit, en revanche, ça a été très compliqué. Ma mère, quand je lui ai dit, elle a, ben voilà, elle a pété un câble, elle n'était vraiment pas contente. On ne s'est pas parlé pendant 2 ans. Et je lui ai dit, de toute façon, ça ne sert à rien de me demander de changer. Je ne peux pas changer. Parce que forcément, moi, voilà, si vous avez étudié un peu des passages de mon livre, vous avez vu à quel point j'ai tout fait pour essayer de changer. Donc moi, quand je l'ai dit à ma mère, c'était que je savais que c'était impossible de changer. Donc je lui ai dit, t'as pas 50 options, je suis ton fils, soit tu m'acceptes comme je suis, soit on se parle plus. Mais venir me dire, ah non, change, marie-toi avec une femme, ça va passer, nanana, je savais que c'était pas possible. Donc en fait, c'est comme si que le rôle de parent et d'enfant s'était inversé. C'est un peu moi qui ai dû éduquer ma mère sur ce sujet. Parce que voilà, ma mère, elle allait sur des sites, sur des forums tunisiens et tout. Et là, tu lis les pires horreurs. Parce que c'est des gens pas très éduqués qui, malheureusement, vont mettre des commentaires. Donc aujourd'hui, avec ma mère, on est très, très proches. J'ai écrit mon 2e livre sur elle, d'ailleurs. Ça s'appelle Yamma, qui veut dire maman en arabe. Et en fait, notre relation, elle est beaucoup plus proche qu'avant que je lui dise.
Est-ce que tu es mal accueilli en Tunisie ?
Donc moi, je suis d'origine tunisienne, hein, je suis né en France. Alors je suis français, mais mes parents, ils sont originaires de Tunisie. À 16 ans, quand le sélectionneur de l'équipe de Tunisie est venu me voir et m'a dit « De par le passeport de tes parents, tu peux aussi faire la Coupe d'Afrique des Nations, etc. Et » Moi, j'ai dit un grand oui, parce que c'est le pays de mes parents, c'est un pays qui m'est très cher. J'y retourne très régulièrement. J'y étais là il y a quelques semaines pour l'Aïd. J'ai de la famille là-bas. Les gens, souvent, ils pensent qu'en Europe, on est plus ouvert d'esprit et les pays arabes ou les pays d'Afrique subsaharienne, les gens sont plus fermés d'esprit. Mais moi, je me rappelle quand mon livre est sorti, j'avais très peur que ma famille en Tunisie la prenne immédiatement, etc. Donc, j'avais quelques cousins sur Instagram que j'ai retirés. Mais en fait, comme j'ai fait une vidéo sur Brut, Combini et des plateaux télé, en fait, en 48 heures, tout le monde le savait. Et là, j'ai reçu un message de mon cousin qui s'appelle Amine, et il m'a dit « Wissem, je viens de voir ta vidéo sur Brut, sache que moi, t'es comme mon frère, tu restes mon frère, et je suis très fier de toi pour ce que t'as fait, je te soutiens à 100%. » Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, les choses, c'est pas noir ou blanc. C'est pas en Europe, tout le monde est gentil, et en Afrique, tout le monde est méchant.
Comment as-tu vécu le racisme dont tu as été victime ?
Moi, je parle d'une anecdote, surtout dans mon livre. C'est le jour où j'ai compris que j'étais arabe. C'est qu'en fait, on est parti faire un tournoi. On se faisait, à l'époque, je jouais en foot. C'était amateur. C'était dans ma petite ville, Aix-en-Provence. Et j'étais le seul joueur qui n'était pas blanc dans mon équipe. Et quand on est arrivé dans cette ville, dans le sud, il y avait des familles qui prenaient des joueurs chez eux. Et là, j'ai vu qu'en fait, je voyais mes coéquipiers qui partaient et les familles disaient, nous, on prend celui-là, nous, on prend celui-là. Et moi, je voyais que personne voulait me prendre. Et je comprenais pas parce qu'il y avait mon coach à côté mon entraîneur qui commençait un peu à péter un câble, à dire ah, c'est pas normal, c'est une honte, tous les enfants ce sont les mêmes, etc. Et en fait, tu vois, c'est là où j'en reviens de tout à l'heure, on parlait des représentations, de l'imaginaire, etc. Peut-être que toutes les familles d'accueil se sont dit, je vais pas prendre ce petit arabe dans ma famille parce que peut-être qu'il va voler des trucs chez moi. Et peut-être que c'est ce qui fait que personne m'a pris. Donc du coup, tu vois, j'avais 12 ans, je me suis retrouvé à devoir aller à l'hôtel avec mon coach. Mais moi, j'ai réussi à en faire une force. Parce que le lendemain, quand le tournoi a démarré, franchement, j'avais la rage de prouver que je suis un arabe et moi, je suis fier de mes origines et je vais réussir comme ça. Et la France, c'est mon pays et j'en fais partie. Parce que de nos jours, on parle beaucoup d'intégration. Mais en fait, si t'es français, t'as pas à t'intégrer, c'est ton pays. Moi, si je vais vivre aux États-Unis, oui, il faut que je fasse l'effort de m'intégrer aux États-Unis. Mais moi, la France, c'est mon pays. Donc je suis déjà dedans, il n'y a pas d'effort d'intégration à faire. Et donc du coup, j'ai pas à changer pour être français. Le lendemain, on a gagné le tournoi, 4-1 en finale. Donc ça reste un bon souvenir. Mais il n'y a pas tout le monde qui va faire de ces moments difficiles comme ça. Une force. C'est pour ça que moi, ça me fait de la peine. Tu vois, moi, dans mon quartier, t'as plein de mecs, ils n'arrivent pas à se sentir français. Parce qu'ils sont constamment rejetés. Moi, j'ai un pote à moi, il fait que dire je suis algérien. Mais il n'est jamais allé en Algérie. Tu vois ce que je veux dire ? Et je lui dis, mais tu peux te raconter ce que tu veux, mais en fait, t'es français. C'est juste que n'attends pas que les autres t'autorisent à être français. Toi, t'es français, ça part de là en fait. J'ai pas besoin qu'on m'autorise à être ce que je suis. Je suis devant vous ce matin, vous voyez à quoi je ressemble, vous savez comment je m'appelle, Wissem Belgacem. Des insultes, que ce soit racistes ou homophobes, ben j'en ai reçu dans ma vie. Que ce soit sur un terrain de foot, à l'école ou autre. Et en fait, ça fait aussi mal. C'est aussi injuste de dire à quelqu'un « sale arabe, sale noir » que ça l'est de dire « sale pédé ». Et je pense qu'aujourd'hui, dans des sociétés où on veut que tout le monde se ressemble, en fait, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de, en fait, cultiver votre différence. Parce que cette différence, on peut en faire une force.
Est-ce que vous avez honte de ne pas avoir assumé votre homosexualité et de l'avoir rejetée ?
Non, j'ai pas honte, parce que je vais vous dire quelque chose. En fait, faire son coming out, il faut jamais forcer quelqu'un à faire son coming out. Chacun est sur sa propre temporalité. Moi, je l'ai dit à ma mère, j'avais 28 ans. Voilà. Certains vont te dire, ouais, c'est super tard, nanana. Il y a d'autres qui l'ont dit, ils avaient 16 ans. D'autres, ils l'ont dit, ils avaient 12 ans. Mais en fait, chaque chemin de vie est unique. Moi, il m'a fallu du temps, déjà pour me l'avouer à moi-même. Ensuite, il a fallu que j'en parle un peu à mes sœurs, mon entourage proche. Et après, je me suis senti prêt à le dire à ma mère. Alors, bien évidemment, dans un monde idéal, je serais arrivé au collège, j'aurais jamais entendu d'insultes sur les homosexuels. Comme on n'en entend pas sur les hétéros. T'entends jamais, ah, sale hétéro, nanana. Un mec qui dit, bah, t'aimes les filles, nanana, t'as pas honte. Parce que ça, c'est la norme. Il n'y aurait pas eu d'insultes et je me serais dit « Ah ben c'est super, en fait, je peux être qui je suis, je n'ai pas à me cacher. » Et là, peut-être que oui, bien évidemment, je l'aurais dit beaucoup plus tôt que j'aurais eu un copain, comme j'ai eu des copines. Hein. Et j'aurais vécu ma vie sereinement, sans devoir cacher ce gros truc, en me disant « Un jour, les gens vont savoir et ça va ruiner toute ma vie. » Et donc, dans un monde idéal, je l'aurais assumé plus tôt. Sauf qu'on est dans le monde qu'on est. Voilà, j'ai grandi en France. Dans un collège français avec tout ce que ça implique et donc mon mécanisme de défense ça a été de le cacher et il m'a fallu du temps pour me sentir assez fort pour me dire maintenant je vais assumer. Et moi quand je l'ai dit à ma mère, moi j'avais un travail, j'étais indépendant financièrement, j'avais mes amis autour de moi etc et tout, donc même si elle a mal réagi je me suis pas retrouvé à la rue. Le danger c'est pour un jeune de le dire à sa famille ou au collège de l'assumer. Et si tu ne gagnes pas ta vie et tout, tu peux te retrouver à dormir dans la rue ou dans des situations très compliquées parce que tu n'as pas encore ce système de soutien autour de toi, que ce soit social ou financier. Et j'en profite pour dire un petit mot sur ça. Moi, je suis parrain d'une association qui s'appelle Le Refuge. Donc, c'est une association qui vient en aide aux jeunes de votre âge jusqu'à 25 ans et qui sont mis à la rue quand leurs parents découvrent qu'ils sont homosexuels. Donc voilà, sachez qu'il existe cette association, ça s'appelle Le Refuge. Donc si un jour vous êtes concerné ou vous connaissez quelqu'un qui malheureusement est mis à la rue par sa propre famille quand ils apprennent que leur enfant est gay, il y a cette fondation Le Refuge qui existe. Il y a une grosse antenne à Paris par exemple, mais il y en a dans le sud, dans le sud-ouest, en Bretagne, etc. Il y en a 22 je crois en tout, à travers toute la France. C'est pas parce qu'on n'est pas gay qu'on ne peut pas lutter contre l'homophobie. Ça, c'est très important de le comprendre.
Merci.
Nous, les humains, on a tous une différence. La couleur de peau, les origines, les cultures, mais on a tous nos goûts et nos couleurs.
On n'est pas tous pareils, ce n'est pas parce qu'on a des goûts, des qualités et des défauts et des physiques différents qu'on n'a pas tous la même beauté. On a le même droit d'être aimé comme nous sommes. Aimez-vous.
École Libris.
Attention, voici le quiz.
Qu'est-ce que ça veut dire LGBTQIA+ ? En France, en quelle année le mariage homosexuel a-t-il été légalisé? Dans combien de pays l'homosexualité est-elle encore pénalisée aujourd'hui? Quelle peut être la sanction appliquée contre les personnes LGBT+ dans ces pays? Combien de personnes font partie de la communauté LGBT+ en France selon les estimations? Combien d'actes homophobes y a-t-il en moyenne chaque année en France? Combien de personnes LGBT+ se retrouvent à la rue chaque année en France? Entre 2016 et 2021, quelle est la variation du nombre d'insultes homophobes en France?
Alors, vous avez les réponses?
École Libris.
École Libris.
Les livres qu'il faut lire, lire, lire.
Come back no more, no more, no more, no more. He's a royal jack, and don't you come back no more. What you say, he's a royal jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. He's a royal jack, and don't you come back no more. No woman, no woman, don't treat me so mean. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, he's a royal jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. He's a royal jack, and don't you come back no more.
What you say?
He's a royal jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. He's a royal jack, and don't you come back no more.
Oh, I know he's a
I guess if you say so, I got you back my things and go. That's right, he's a royal jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. He's a royal jack, and don't you come back no more.
What you say,
he's a royal jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. He's a royal jack, and don't you come back no more. 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 Don't you come back no more.
Radio Cartable. École d'Ivry. Annabelle, pas un seul cheveu blanc n'a poussé sur mes rêves. Annabelle, au roman des amants, je feuillette tes lèvres. Annabelle, j'ai dans mes récepteurs le parfum de ta voix. Annabelle, je te connais par cœur, sur le bout de mes doigts. Au loin dans la vallée, la brume se mélange au pastel de safran, de violette et d'orange. Et j'en vois les reflets dans ton regard voilé par des réminiscences d'antiques cruautés. Ne laisse pas les mers deviner grand.
Bon, pour tous les auditeurs de Radio Cartable et pour Gaël, bah, je suis désolée de ce blanc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je rediffuserai cette émission vraiment très intéressante une fois ultérieure. Encore toutes mes excuses.
Annabelle, au roman des amants, je feuillette tes lèvres. Annabelle, j'ai dans mes récepteurs le parfum de ta voix. Annabelle, je te connais par cœur, sur le bout.
Où t'en vas-tu, Martha? Je vais qu'à un cas tout en haut des Pyrénées. Et que fais-tu, Martha? Je vais porter mon bas tout en haut des Pyrénées. Je vais en portant sur mon dos, tout là-haut, des marchandises au bon Dieu. Car il est toujours très fauché, tout là-haut, le petit bonhomme en bleu. Reviendras-tu, Martha? Monsieur, je ne sais pas, j'aime bien les Pyrénées. Où t'en vas-tu, Martha? Je vais qu'à un cas tout en haut des Pyrénées. Que chantes-tu, Martha? Monsieur, n'importe quoi, puisque j'ai les Pyrénées. Si tu veux venir à Paris, ô Martha, je t'emmènerai avec moi. Je veux bien passer par Paris, mon ami, il paraît que c'est joli. Viens avec moi, Martha, et Paris, tu verras, ça ressemble aux Pyrénées. Un jour l'on vit Martha descendre à petits pas dans la rue des Pyrénées. Où t'en vas-tu, Martha? Monsieur, je ne sais pas, où sont donc mes Pyrénées? Tu as voulu venir à Paris, ô Martha, il fallait rester là-bas. Monsieur, vous m'aviez bien promis, tout là-bas, de me ramener chez moi. À Vaugirard, Martha, ce soir tu t'en iras, bien loin de tes Pyrénées. La prochaine fois, Martha, tu réfléchiras mieux au petit bonhomme en bleu.
Un soleil blanc et froid lance ses rayons de glace qui investissent le corps par saccades éclatantes. Rien ne bouge et cependant tout vibre en ses alentours. Blotti au creux des tréfonds virtuels et lourds et puissants, plus blancs que le soleil rouge.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, que vous connaissez tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'année de la mer. Nous allons plonger dans les profondeurs avec deux écrivains accomplis d'ailleurs. Une romancière, Emmanuelle Favier, qui vient nous présenter Écouter les eaux vives. C'est un roman, très beau roman, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et Gilles Bornet, qui s'y connaît en nage, puisqu'il est lui-même un nageur émérite, comme on dit. Gilles Bornet, qui vient de publier aux éditions du Rocher Les aventuriers de la nage, des évadés d'Alcazar aux héros de la Manche. Alors, je vais commencer par Emmanuelle Favier, qui est romancière. Emmanuelle Favier, c'est votre... c'est le troisième roman, quatrième? Non, je ne sais plus, là.
Alors, c'est le quatrième roman chez Albin Michel. Oui. J'ai fait paraître un autre roman, enfin un objet un peu hybride, aux éditions Les Pérégrines, il y a 2 ans. Mais c'est le quatrième roman chez Albin Michel, en tout cas.
Écoutez les eaux vives, ça vient de paraître chez Albin Michel. Je dois dire que c'est un roman très intéressant, très documenté, très riche, ce que je vous disais hors antenne. Il y a beaucoup de travail, c'est très nourri et c'est assez captivant. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a en main, on plonge direct dans les immersions, les eaux profondes. Alors il y a des phrases en exergue, hein. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul de Jules Verne, que j'ai bien lu et que j'ai retrouvé l'esprit Jules Verne dans votre roman Emmanuel Favier. Il y a aussi une phrase de Suran, nous avons été dépossédés de tout, même du désert. Voilà, de l'inconvénient d'être né et là de l'inconvénient peut-être de vivre en profondeur. Alors votre héroïne, je crois qu'elle s'appelle Adriane. Elle est quand même un métier très particulier que j'ai découvert avec vous, elle est oreille d'or. Dans un sous-marin, elle part écouter les eaux. Alors, et en plus, j'ai appris grâce à vous qu'il y avait à Toulon un centre d'apprentissage acoustique. Je ne connaissais pas ce métier. Comme quoi, nos sous-marins avaient besoin d'oreilles d'or pour écouter les fonds marins. Alors ça, c'est absolument fascinant. Alors, vous pouvez nous raconter un peu le début de l'histoire, hein?
Oui, alors les oreilles d'or, en fait tous les bateaux évidemment ont besoin d'oreilles pour écouter d'éventuels ennemis ou d'éventuels obstacles. Les sous-marins c'est d'autant plus essentiel qu'ils sont complètement aveugles et donc ils avancent sans autre repère qu'acoustique. Et donc l'oreille d'or c'est l'expert acoustique, en termes techniques on les appelle des analystes en guerre acoustique, des anagas, qui va donc écouter les bruits de la mer pour faire le distinguo entre un banc de crevettes et un autre sous-marin. Un bateau de surface et un chalutier par exemple ou un cargo, et entre les sous-marins il est capable aussi de distinguer entre le sous-marin russe, le sous-marin britannique, etc. en fonction d'un certain nombre de critères, et donc il est formé effectivement au CIRA qui est le centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique, si je ne dis pas de bêtises, qui est à Toulon, qui est vraiment une exception française. Et l'oreille d'or, alors évidemment les experts acoustiques sont pas uniquement en France, mais l'oreille d'or c'est vraiment une particularité française. On a vraiment ce petit privilège militaire. Et donc Adriane Ramsay est écossaise. Alors oui. Elle travaille pour la Royal Navy. J'ai un peu décalé le propos en me situant dans la marine britannique. Et j'ai un peu triché en imaginant qu'il y avait des oreilles d'or dans la marine britannique. Mais ceux qui ont vu Le Chant du Loup ont sûrement entendu parler de ce métier étonnant.
Et alors, c'est un métier, vivre sur l'eau, vivre sous l'eau, pourrait peut-être apprendre à revivre sur terre. Puisque Adriane va faire la rencontre avec elle oriente un bateau aveugle, si on peut dire, un sous-marin aveugle, mais elle va rencontrer un aveugle qui s'appelle Abel, et avec Arthur. Donc il y a tous les trois personnages, leur prénom commence par A.
Oui, alors le A, c'est, j'ai presque envie de dire que c'est involontaire, c'est-à-dire que les prénoms me sont apparus avec beaucoup d'évidence à chaque fois, chaque prénom a une histoire et une raison d'être. Et le fait est que ce sont trois A. Alors A comme amour peut-être, mais A comme autre, je pense, car c'est vraiment un livre. Je l'ai vraiment conçu, voilà, un livre sur l'altérité et son miroir qui est la solitude.